Alors, chers amis, aujourd'hui, notre union d'Église libre désigne ce dimanche, 8 avril 2018, comme dimanche de la mission. La première définition de mission, pour continuer la tradition de Thomas et de Zach, qu'on trouve dans le Petit Larousse, c'est mission, charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Pourtant, lorsqu'on parle aujourd'hui de missionnaire, on pense, bien sûr, dans le milieu chrétien, souvent, on pense tout de suite aux pays lointains, en Afrique, en Asie, en Chine, en Amérique du Sud, etc. Et pour revenir à notre livre de référence bien-aimé, Le Petit Larousse, on y trouve la définition suivante de missionnaire, à savoir prêtre, pasteur, religieux, employé dans une mission. C'est très bien, mais quel est notre rôle là-dedans? Est-ce que le Seigneur nous appelle tout simplement à les soutenir financièrement et à prier pour nos missionnaires à plein temps qui réussissent dans leur mission et qui soient protégés de tout danger associé avec leur tâche? Mais non, frères et sœurs, notre engagement dans la mission de l'Église du Christ doit être beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ça. Conduit par le Saint-Esprit et rempli de sa puissance et de sa sagesse, nous devons tous être prêts à porter le message de Pâques à ceux et celles qu'il nous désigne, en commençant par Jérusalem ou Angoulême, avant de nous aventurer en Judée ou en Charente, en Samarie ou en France métropole. Et finalement, pour ceux à qui le Seigneur donne cette mission spécifique, jusqu'au bout du monde. Bref, nous sommes tous et toutes appelés à la mission. Soyons sûrs de notre message et prêts à rentrer la moisson. Avant d'aller vers les autres, il faut que nous soyons sûrs de notre message, sûrs que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Car, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 13 à 14, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Au fait, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, sans objet, dépourvue de sens, et nous sommes toujours sous le poids de nos péchés. Verset 17. D'où l'importance d'un film comme Jésus, l'enquête, dont vous avez peut-être entendu parler, ou le parcours Alpha, où les faits historiques qui entourent la résurrection de Jésus sont clairement mis en évidence devant un public forcément sceptique. Mais oui, en réalité, le Christ est en effet revenu à la vie. Et dans les Écritures, cette première résurrection est décrite comme les premiers fruits de la moisson. 1 Corinthiens 15, 20. Si au fait, le Christ ressuscité est le premier fruit de la moisson, qu'en est-il du reste de la moisson? À qui Jésus a-t-il confié la sainte tâche de rentrer la moisson? Devant les foules, Jésus s'adressa à ses disciples en déclarant en Matthieu 9, 37 à 38, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Oui. Il a bien dit. Qui alors va aller à la recherche des brebis perdues d'Angoulême ou de Charente en leur annonçant le glorieux évangile du Sauveur ressuscité? Sinon, nous, vous et moi, dès maintenant, et ayant célébré ensemble la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est à nous de prendre au sérieux son commandement d'aller dans le monde entier pour faire des disciples. Et si cela va à l'encontre de notre culture française ou anglo-saxonne, à l'encontre de notre société post-moderniste et athée, tant pis. Sur le commandement de notre Sauveur et sous l'impulsion du Saint-Esprit, c'est à nous de relever le défi. Mais pendant que nous portons ce message à tous ceux qui désirent sincèrement connaître la vérité concernant Jésus-Christ, en nous servant des meilleurs outils à notre disposition, comme le parcours Alpha, et bien sûr la Bible, la parole de Dieu et notre témoignage personnel, n'oublions pas que nous portons ce trésor dans des vases d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. De Corinthiens 4, 7. Si vous vous sentez nerveux à l'idée de parler à un ami, à un parent ou même à un inconnu de Jésus, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. En effet, le défi de la mission peut nous effrayer si nous ne nous rendons pas compte que notre faiblesse naturelle devant un monde qui, pour la plupart, refuse de croire et rejette notre message est avec Dieu notre plus grande force. Notre faiblesse est notre plus grande force. En quoi consiste alors notre témoignage à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ? Il me semble qu'il y a trois moyens principaux, trois approches, si vous voulez, par lesquelles le missionnaire, l'envoyé de Dieu, peut transmettre le message du salut en Jésus-Christ. D'abord, oralement, c'est-à-dire par la bouche. Deuxièmement, par sa façon de vivre et ses actions. Troisièmement, par ses attitudes et son comportement. Aujourd'hui, pour des raisons de temps, limitons-nous au témoignage oral. Alors, ma prochaine section, c'est l'importance de l'affirmation de la bouche, le témoignage oral. Laissez-moi vous poser une question, frères et sœurs, une question peut-être gênante. Quelle est la dernière fois où vous avez osé partager votre foi avec quelqu'un en essayant de lui expliquer le vrai sens du message de Pâques. Soyons clairs, la création entière, toute la création, parle constamment de la réalité de Dieu. Mais l'être humain est la seule de ces créatures à qui Dieu a donné la faculté et la capacité de communiquer par les paroles ou par les mots. Il ne s'agit pas d'avoir une éloquence exceptionnelle, une bonne éducation ou des connaissances bibliques profondes, le caractère d'un vrai extraverti, ou même la capacité de parler couramment la langue de la personne à qui on s'adresse. L'important, c'est que, dans sa faiblesse, on fait confiance au Saint-Esprit pour nous guider et nous donner les paroles qui touchent le cœur de celui ou celle qui est à la recherche de la vérité. L'apôtre Paul n'avait peut-être pas les mêmes faiblesses que moi ou que vous. Mais il a reçu de Dieu, dans sa faiblesse, une parole que tout enfant de Dieu peut s'approprier. Et voici cette parole qu'il a reçue. C'est dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est ainsi qu'il put conclure avec conviction et grâce à son expérience de témoigner, « C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Alors, en témoignant pour Jésus, gardons dans notre esprit et notre cœur cette parole rassurante de Romains 10 et verset 8, qui est une précieuse promesse et qu'on trouve d'abord dans l'Ancien Testament, au fait, en Deutéronome 30. Voici cette parole. La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette belle promesse est suivie dans les versets 9 et 10 de Romains 10 par une autre, encore plus glorieuse. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Jésus l'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. L'évangile n'est vraiment pas compliqué. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc il faut donner à ceux à qui on témoigne l'opportunité de déclarer, de recevoir le Seigneur et de déclarer qu'ils s'engagent pour le Seigneur. Et comme ça, ils peuvent avoir la confiance qu'ils sont sauvés, d'après les Écritures. Le témoignage oral des enfants de Dieu à un monde qui ne croit pas est alors crucial. Car, et voici une parole de Romains 10, 14, « Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer. Jusqu'ici, j'espère que tout est clair. Mais, et voilà un mais très important, Paul, l'apôtre Paul, admet au verset 16 de Romains 10, « Mais, malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. » Là, il parlait des Israélites, mais en même temps, je pense qu'il parle de ceux vers qui on va avec l'Évangile. Tous n'accepteront pas, forcément. Pour le missionnaire, le messager, enfin, pour toute personne qui ose relever le défi du témoignage pour le Christ, face à l'opposition et devant l'hostilité des autres, cela peut mener vite au découragement. Dans notre société, notre culture telle qu'elle est, qui est prêt à nous écouter? Qui est prêt à recevoir notre message? Alors, la prochaine section, face à l'opposition. Si vous êtes face à l'opposition, vous avez besoin d'une estimation réaliste de la tâche devant vous. Oui, c'est l'œuvre de Dieu, mais il faut avoir une estimation réaliste. Et c'est Paul lui-même qui vous donne, qui nous donne une estimation réaliste. Dans l'extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens, que nous allons lire ensemble, Paul nous invite à considérer cette situation d'un œil critique et réaliste. Je lis dans la traduction du Semeur. J'aime bien le fait que les éditeurs de cette excellente version de la Bible ont conservé cette ironie de l'apôtre dans la rubrique qu'ils ont choisie pour cette section de la lettre. Cette rubrique, c'est « La sagesse des hommes et la folie de Dieu ». La sagesse des hommes et la folie de Dieu. C'est très ironique que Paul nous donne ce message. Voilà, je lis. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Aux yeux de ceux qui se perdent. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ, mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société, Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Voilà la toile de fond, si vous voulez, à notre témoignage que Paul nous donne là. Au fait, tout ce passage est une mise en garde contre les difficultés que les missionnaires et les évangélistes vont certainement rencontrer dans la proclamation de la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la bonne nouvelle du salut de Dieu en son Fils. En effet, c'est une triste réalité que bien des gens à qui on parle vont considérer notre message de la mort expiatoire du Christ sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard comme une folie, un non-sens. Et ce n'est que quand le Saint-Esprit leur ouvre les yeux, pas moi, le Saint-Esprit leur ouvre les yeux, qu'ils se rendront compte que cette mort et cette résurrection démontrent la puissance même de Dieu. Le problème fondamental de l'homme, c'est que dans son manque de sagesse, lui qui s'imagine si sage, il s'est tourné le dos à Dieu, son Créateur, et la seule vraie source de sagesse et d'intelligence. Comme Paul nous montre dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, versets 19 à 20, c'est en effet la plus folle des folies que de refuser de connaître Dieu. C'est la plus folle des folies de refuser de connaître Dieu. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, dit l'Écriture. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Le résultat est bien clair, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées, dépourvues d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. C'est pourquoi, pour revenir à notre texte principal, si le Saint-Esprit ne l'éclaire pas, l'intelligence, même des plus intelligents, est réduite à néant. Ce qui n'empêche pas les raisonneurs de ce monde, dont il y a des masses, de vouloir discuter longuement et se livrer à des spéculations absurdes et sans fondement qui, parfois, suscitent des querelles. Ça se trouve dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 23. Il se livre à des spéculations absurdes et sans fondement qui parfois suscitent des querelles. Nous, on n'est pas dans la querelle. On annonce la paix du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le discernement que l'Esprit nous donne en témoignant à quelqu'un est très important. Le royaume de Dieu que Jésus nous amène est une perle précieuse, un inestimable trésor, mais qui ne sera trouvé que par ceux qui la cherchent, cette perle. en toute sincérité et de tout le cœur. La promesse de Jésus en Matthieu 7, 7 à 8 est claire. Voici la promesse de Jésus. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Chaque fois qu'une personne s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. C'est une promesse. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dans ma vie, je peux vous témoigner, dans chaque cas où il y a eu des conversions, par le témoignage non seulement de moi-même mais d'autres, j'ai remarqué que toujours la personne a cherché. C'était un chercheur. Nous, on est à la recherche des chercheurs. En témoignant de sa foi, alors il est sage de se poser la question, est-ce que cette personne que j'ai devant moi cherche en toute sincérité à connaître la vérité? Et si nous l'écoutons bien, le Saint-Esprit nous donnera la réponse à cette question. Quelquefois, c'est non. Alors là, vous perdez votre temps, franchement. Mais si l'Esprit vous dit, oui, cette personne cherche à connaître la vérité, alors là, vous continuez. C'est pourquoi Jésus lui-même donne cet avertissement à ses disciples qui partent en mission. Ça peut paraître un peu dur. C'était sûrement très dur pour les Juifs qui l'écoutaient. Il parlait à ses disciples, « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » Ça, c'est en Matthieu 7, 6. C'est un avertissement très dur, n'est-ce pas? Le Jésus qui dit à ses disciples, quand ils sont en mission, de saluer les occupants de la maison avec cette belle salutation, « Que la paix soit avec vous », est le même Jésus qui dit tout de suite après, si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Matthieu 10, 12 et 14. Ça montrait qu'on n'était vraiment pas très content. On secoue la poussière de vos pieds. De nos pieds. Dans le passage de Corinthiens que nous avons lu ensemble, Paul nous rappelle pourquoi il est inévitable qu'on rencontre une forte résistance à la proclamation de l'Évangile. N'oublions pas aussi l'avertissement de Jésus à ses disciples qui se préparait à partir en mission. Voici un autre avertissement de Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, et ni le serviteur supérieur à son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Béelzébul, et là il parle de lui-même, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Si Jésus a été critiqué, ne soyez pas choqués si vous êtes critiqué aussi. Puis, il ajoute, n'ayez pas peur de ces gens-là. N'ayez pas peur. Je pense que j'ai dit ce matin, oui, quelqu'un m'a demandé si j'avais passé une nuit blanche à préparer mon message, et je dis non, mais je reste très faible, mais je n'ai pas peur. C'est la peur que le Seigneur vainc en nous quand on va vers d'autres pour leur parler de Jésus. Notre boulot, frères et sœurs, n'est pas de persuader les gens par la force de notre intelligence ou l'étendue ou la profondeur de nos connaissances bibliques et ainsi de gagner l'argument contre ceux qui s'accrochent à leur raisonnement et leur sagesse, mais de partager en toute humilité et avec amour la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, je conclus, allons-y. La dernière section. N'oublions pas que ceux à qui on s'adresse auront eux-mêmes leur propre histoire, leurs problèmes personnels, leur propre culture et peut-être leur propre religion. Donc, ils méritent notre respect, notre patience et notre écoute. Certains de ces facteurs que j'ai mentionnés là, peut-être leur religion, leur culture, certains de ces facteurs peuvent constituer des obstacles à ce qu'on leur propose. Comme les Juifs de l'époque de Paul ou les musulmans d'aujourd'hui qui avaient et qui ont toujours des problèmes quand ils sont confrontés à l'idée de Dieu lui-même mort sur une croix ou la réalité de la Trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, certains crieront sûrement « scandale, faiblesse !» D'autres auront été profondément influencés par la culture grecque. Quand je dis la culture grecque, notre civilisation a beaucoup bâti sur notre façon de raisonner dépend beaucoup de la culture grecque, la culture marxiste, laïque, moderniste ou post-moderniste qui dénoncent et dénonceront sûrement l'absurdité de ce qu'on leur propose. Comme dit Paul au verset 21 de notre passage, Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Alors face à l'opposition, il faut constamment se répéter ces paroles qui réconfortent tout missionnaire, tout évangéliste, tout témoin de Christ. 1 Corinthiens 1, 25. Cette folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Notre mission est d'annoncer son message avec amour, avec foi et avec patience. Et c'est lui, Jésus, qui se montrera à celui ou celle qui cherche. Oui, pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, français, anglais, américain ou autre, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Allons donc avec joie et avec confiance à leur rencontre. Amen.